Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Aujourd'hui, je vous propose de remonter jusqu'à l'ère lointaine du déluge pour découvrir Sans Voix. C'est un singe capturé par des humains cruels qu'il transforme en bête de guerre. Et puis, d'un seul coup, clac, il y a une catastrophe et on suit ce groupe d'humains décimés qui va chercher à rejoindre la capitale pour prendre le pouvoir. Et chaque chapitre change de narrateur, le dieu fauve aura une grande importance dans leur aventure. Le dieu fauve, c'est ce qui est devenu ce singe sans voix. C'est en tout cas le pitch de départ de cet album de Fabien Wellman et de Roger. Il s'intitule Le Dieu Fauve, il sort aux éditions Dargo et il sort aujourd'hui en librairie 4 avril. Et j'ai le plaisir d'avoir son scénariste avec moi, Fabien Wellman. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment est née un petit peu cette histoire de dieu fauve, d'abord ce singe sans voix et puis après toutes ces aventures?
Alors c'est d'abord venu d'une envie de travailler avec Roger Ibanez, bien connu pour sa série Jazz Ménard chez Dargo. Qui est, j'allais dire qu'on ne me présente plus, mais si, que peut-être certaines personnes ne connaissent pas, qui est vraiment un virtuose absolu de la bande dessinée, en particulier des ancrages. Et on se côtoyait comme ça de loin en loin pendant des festivals, on se disait qu'on aimerait bien bosser ensemble. Ça fait à peu près 10 ans qu'on voulait bosser ensemble, si ce n'est pas plus. Et ma première envie avait été d'aller vers un thriller, parce que son dessin dans Jazz Ménard s'y prête assez bien. Et puis ça venait pas, ce qui est une des problématique des fois, même quand on a très envie de travailler avec des gens, c'est que l'inconscient ne suit pas, ne trouve pas les bonnes idées ou on n'est pas d'accord. Et donc là, on tournait autour du pot, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ça, quand ça veut pas, faut changer d'approche. Et en voyant un dessin de Roger sur son Instagram, où un alligator gigantesque manque de dévorer une jeune héroïne, je me suis dit, ah bah tiens, Roger a l'air d'être capable de faire de l'heroic fantasy. Et en fait, il se trouve que j'avais une vieille envie de faire de l'heroic fantasy, qui est un genre pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce que je l'ai adoré quand j'étais adolescent, essentiellement à travers des lectures comme le Conan le Cimmérien de Howard, bien entendu, mais aussi les fresques de Frazetta qui m'avaient énormément marqué, ou La quête de l'oiseau du temps de Le Tendre et Loisel. Donc toute cette littérature qui peut être de très très bonne qualité, mais qui a été suivie de toute une vague peut-être un peu plus édulcorée, qui a fait que je me suis un peu éloigné du genre en me disant, bon, si c'est pour faire ce que font tous les autres, sauf quand c'est amusant, type L'Enfeuste, qui est presque un pastiche en fait, et qui du coup amène vers d'autres voies qui sont vachement bien. Mais si on veut le traiter sérieusement, j'avais l'impression qu'il fallait trouver une autre approche et je ne trouvais pas cette approche. Et puis là, comme souvent quand j'ai des envies anciennes, c'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place. Il y a Roger qui a l'air d'être OK pour faire de l'heroic fantasy. Il y a moi qui me sens prêt à faire quelque chose. Il y a cette thématique de la fin d'une civilisation qui me vient entre-temps parce que portée par des préoccupations contemporaines qui sont celles de notre époque, malheureusement, à savoir la perspective, plus ou moins avérée selon le degré qu'on a vis-à-vis de ces questions. Moi, je suis un peu collapso dans l'âme, donc je pense qu'on n'est jamais très très loin de la perspective de, si ce n'est d'un grand effondrement ultime, en tout cas de petits effondrements qui s'enchaînent, et quelque part le Covid a été une de ces étapes, entre autres. Cette perspective de comment on se comporte quand on peut enfin réaliser, être lucide face au fait que notre civilisation aura peut-être une fin, se terminera, c'était un sujet qui me passionnait, qui me passionne, et je me suis dit, ben voilà, si je situe cette aventure à l'époque dite du déluge dont on parle à peu près toutes les mythologies du monde, mais dont on ne sait pas grand-chose, je peux créer un univers de toutes pièces, à peu près sans aucune référence à des textes connus. De fait, il n'en est pas question, hein. Dans le Dieu Fauve, on invente une civilisation de toutes pièces, où a priori d'ailleurs le métal n'existe pas encore, enfin, c'est pas forcément très très clair, mais a priori on est plutôt à l'époque de l'obsidienne, de la hache en pierre, mais quand même assez sophistiquée. Et puis là, j'ai convoqué un certain nombre de stéréotypes du genre. Par exemple, un singe tueur avec une hache, c'est typiquement du Frazetta, c'est typiquement du Howard. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ça qui, par contre, paradoxalement, ne soit pas de l'heroic fantasy basique. Et c'est là, moi, ce qui m'intéresse dès que j'ai envie d'aborder un genre, c'est de partir sur les stéréotypes qu'on attend de ce genre. Par exemple, dans le western, ça sera, on attend des revolvers, on attend des chevaux, on attend des vengeances. Et en même temps, les lecteurs, les lectrices, veulent qu'on convoque ces stéréotypes, mais veulent être surpris et surprises. En tant que lecteur, lectrice, on a toujours envie de ça. Pareil ici, il y a des massacres, il y a des haches, il y a des scènes d'une très grande violence, il y a des scènes, je dirais même, d'une violence graphique. Mais mon rôle de scénariste avec Roger, ça va être de distordre cette approche pour essayer d'apporter quelque chose de novateur, à certains égards d'un peu littéraire. Et c'est passé là par une idée qui est venue vers la fin et qui était vers la fin de quand on a décidé de faire le projet, qui était de faire un récit choral avec quatre personnages et chaque chapitre nous fait changer de point de vue.
Alors, tu l'as dit, hein, on est sur la fin d'une civilisation avec des survivants qui ont quand même dans l'idée, malgré la catastrophe, d'aller prendre le pouvoir. Il y a ça qui est très fort. Ces survivants, c'est un groupe de quelques dizaines de personnes. C'est une mini-société en elle-même. Comment tu l'as constituée? Il y a des esclaves, il y a des guerriers, il y a évidemment une dirigeante, une princesse, je sais pas comment on peut
Une
l'appeler,
consul, oui, une
une consul,
consul.
voilà, exactement. Il y a un monde en miniature.
Oui, c'est ça. En fait, je voulais éviter qu'on ait à montrer toute l'ampleur de cet empire qu'on appelle l'empire Altianthéen, avec le risque de se perdre dans un univers sans doute très excitant, mais qui n'a pas forcément un intérêt fou pour les lecteurs. Donc, on a reproduit une espèce de microcosme avec cette caravane qui devait se rendre à des funérailles impériales, qui se fait balayer par cette vague gigantesque, ce déluge, et je dirais presque 80% de cette immense caravane est détruit. Et puis ce qui reste, comme tu le dis très bien, c'est vraiment un résumé de cette société avec ses tensions, ses violences, avec tous les sujets qui m'intéressent, en particulier la notion de l'esclavage. Et malgré tout, malgré le fait que tout paraît plié à cause de cette catastrophe, ils ont en tête l'idée de prendre le pouvoir. Et dans ce sens-là, j'avais une autre source d'inspiration qui était ce film incroyable de Herzog, qui est Aguirre, La colère de Dieu, avec Klaus Kinski, qui est un film comme ça, presque apocalyptique, sur des conquistadors qui vont chercher l'Eldorado à travers l'Amazonie, en fait, se perdent dans la jungle et ça se termine d'une espèce de petit théâtre décadent, comme si le décor s'effondrait derrière eux. J'avais énormément en tête cette référence en me disant, ben, voilà, cette caravane veut prendre le pouvoir, et pourtant, si ça se trouve, ça ne sert déjà plus à rien. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un nihilisme au fond de cette démarche, de cette caravane, même si certains des points de vue viennent, bien entendu, contredire cette façon un peu nihiliste de voir les choses.
Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce groupe de survivants, c'est que les barrières sociales restent. Comme si finalement, même encore avec le pire, les esclaves restaient des esclaves, les guerriers restaient des guerriers, la consule restait la consule et la dirigeante, comme s'il n'y avait pas possibilité, face à une cause commune, de tout remettre un petit peu à plat, quoi.
C'est un des grands thèmes de cet album. En fait, le thème central de l'album, c'est la violence et ses différentes facettes. C'est-à-dire qu'on a, selon les chapitres et selon les personnages, des approches de la violence. La violence des singes, par exemple, de ce clan de singes qu'on voit au début et dans lequel vit Sans Voix, dont tu parlais, c'est une violence amorale, c'est la violence de la nature. Ensuite, on a un autre personnage qui est un poète, et là, on a une violence qui est cathartique, qui se veut être sublimée par la poésie, par les combats des arènes. Ensuite, on a une guerrière qui, elle, incarne une violence raisonnée, entre guillemets, un usage de la force au service d'une civilisation. Et je garde un flou artistique sur le dernier chapitre, parce qu'il y a une forme de surprise sur ce dernier personnage. Mais effectivement, on constate que, et peut-être même a fortiori, quand une civilisation est impactée, elle se raccroche presque à ses fondamentaux, mais ju jusqu'à la caricature et jusqu'au moment du point de rupture quand même, parce que dans le récit, on voit que ces codes, s'ils sont conservés longtemps, sont mis à l'épreuve, sont ébranlés, voire finissent par exploser en vol. Donc c'est comme si on se raccrochait à ce que doit être la société, les rituels, la religion, la hiérarchie, mais que petit à petit, les tensions de fracture qui suivent cet effondrement de civilisation amener cette micro-société à une espèce de moment, de climax, où sa survie va dépendre finalement du combat de quelques-uns contre quelques autres.
En dehors du fait que tu avais envie de te mettre un petit peu à la fantaisie, est-ce que la fantaisie apporte quelque chose de plus par rapport à cette histoire? Est-ce que la puissance de la métaphore d'un monde imaginaire, ou en tout cas qu'on fantasme, apporte quelque chose de plus par rapport à des choses historiques? Tu l'as parlé, hein, tout à l'heure, tu avais une histoire de conquistador réel ou de choses comme ça.
Alors déjà, je précise que de la partie héroïque fantasy, j'ai plus utilisé la partie héroïque dans le
Ouais.
sens où il n'y a pas de magie, par exemple, dans Le Dieu Fauve,
C'est vrai.
ce qui peut parfois être le cas de Conan ou du Cycle des Épées de Fritz Leiber, qui a une autre référence que j'ai adorée. Ici, donc, c'est somme toute une vision du monde assez réaliste, assez rustique, une sorte de presque de proto-histoire de l'humanité, mais qui aurait pu exister. Elle me permet effectivement d'atteindre à quelque chose, j'espère, d'un peu universel, un peu de l'ordre d'une fable, de jouer avec les codes de la violence, parce que la violence de l'heroic fantasy est une violence très graphique, et comme je veux parler de violence, c'est intéressant de montrer cette violence d'une certaine manière. Après, je crois aussi que comme pour certains sujets qui me sont difficiles, je pense par exemple à la guerre d'Algérie quand j'ai fait le dernier Atlas, ou ici la perspective de la chute possible, envisagée, probable, que sais-je, de notre civilisation. C'est un sujet qui est en fait, qui est assez effroyable. C'est un sujet qui peut vraiment prendre aux tripes, quoi. Si je me laisse aller à mes penchants collapsos, je dors plus, quoi. Quelque part, de revenir à une sorte d'origine du monde, où les thématiques sont les mêmes, où finalement on répète déjà des choses qui sont encore des thématiques d'actualité, permet de relativiser un petit peu l'aspect fin du monde de tout ça. D'ailleurs, je ne crois pas à la fin du monde. Je crois, là encore, à des effondrements qui existent déjà ça et là dans le monde. Hein. Soit étant passant, l'Occident n'est pas autant impacté que, par exemple, l'Afrique, si on parle de maintenant. Et donc, de revenir au fait que c'est une histoire éternelle qui se répète avec des montées, des accélérations, des chutes, et puis ça repart à nouveau, il y a des ferments quand même d'espoir, même si ça se fait au prix d'un certain nombre de drames, à quelque chose qui me permet d'aborder le sujet sans être trop sidéré par quelque part l'horreur de ce que je suis en train de raconter. La violence dans l'absolu, elle sidère. La violence, elle est porteuse de trauma. Donc pouvoir en parler, ça nécessite que je fasse un pas de côté. Et quelque part, l'heroic fantasy, du fait même de ses codes, du fait même de ce côté, il était une fois il y a fort longtemps, je pense, permet ce pas de côté.
Qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs et lectrices en retiennent de ce one shot? Est-ce que tu te projettes dans ce que tu aimerais qu'ils gardent?
J'aimerais bien qu'ils partagent ce que j'ai moi vécu en relisant les pages, à savoir surtout et avant tout de l'émotion. Parce que là, j'ai énormément parlé de ce qui m'a permis de construire le récit, parce que c'est ma façon de réfléchir. Je suis un intello. Je précise à chaque fois, ça ne veut pas dire que je suis intelligent, ça veut dire que j'utilise constamment mon intellect, parce que c'est ma façon de réfléchir. L'intelligence, c'est autre chose. Et en fait, Dieu soit loué, en choisissant de bosser avec Roger, on a réussi à atteindre quelque chose qui est différent et qui est quelque chose de l'ordre de l'émotion, précisément. Au-delà donc de la structure très intellectuelle de ce que j'ai voulu mettre en place, ce qui m'était important et ce qui m'est de plus en plus important au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, qui commence maintenant à avoir un petit peu de bouteille, un peu de temps, c'est d'essayer de m'améliorer sur un de mes points faibles, qui est celui de faire vivre des émotions, au lieu de défendre des thématiques ou des sujets. Ici, bien entendu que je parle de la violence, bien entendu que je parle de la fin d'une civilisation, mais tout ça n'aura de sens et ne touchera les lecteurs et les lectrices que si ça passe par une incarnation, par des vrais personnages et donc par une émotion. Et dans ce sens-là, j'espère, je croise les doigts, mais je veux croire que précisément le Dieu Fauve dessiné par Roger permet d'accéder à cette émotion. À chaque fois que je relisais les épreuves du livre pour vérifier qu'on n'avait pas laissé des coquilles, etc., il y a un moment vers la fin où j'abandonnais la lecture critique, où j'en suis à me dire où est la cédille, est-ce qu'on a oublié une virgule, et j'étais repris par le récit et surtout par la puissance de la mise en scène et de l'incarnation graphique de Roger, et je finissais par lire l'histoire simplement en me disant, ah oui, c'est ça l'apothéose, le climax de tout ce qu'on a mis en place. Parce que je précise, c'est Le Dieu Fauve, pour ceux qui l'ont pas encore lu, c'est une structure qui peut être un peu déstabilisante au départ. Donc, on a un premier point de vue qui est sans voix. Deuxième chapitre, on passe à un autre point de vue. On rentre dans un univers avec une autre perspective qui est celle des humains. Et donc, ça demande quelque part une forme d'exigence. Et j'ai envie de croire qu'au fur et à mesure de la lecture, de chapitre en chapitre, on commence à choper le rythme pour, à mon sens, une scène finale qui est le paiement vraiment total de ce moment où il a fallu rentrer, faire ce petit effort de lecture. Et c'est ce que je vivais à chaque fois que je relisais les épreuves du livre. Je commençais très concentré et je me laissais entraîner comme si le livre trouvait son rythme, s'accélérait. Et pour moi, vraiment, en particulier l'épilogue, qui est donc une espèce de chapitre 5, reste un moment de grâce vraiment que je dois à Roger. Et j'aurais jamais assez de remerciements pour lui, parce que Roger a cette force incroyable de croire à ses personnages. Totalement. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec des idées, avec des concepts, avec bien entendu quand même un sens de la dramaturgie, mais ça ne passera ensuite que par l'incarnation. Exactement comme si j'arrivais avec un scénario de film et une mise en scène en tête, mais il reste à trouver un casting, les bons chefs-op, les bons décorateurs. Et Roger est tout ça. Et il l'est avec énormément de talent. De toute façon, j'ai une chance folle dans ma vie, c'est que j'ai toujours bossé avec des gens talentueux. Donc ça, je remercie le dieu de l'édition, ou les dieux de l'édition. Et Roger a permis ça. Et ce qui fait qu'à la fin d'un livre comme Le Dieu Fauve, ce que j'espère, c'est que notre public vivra la même intensité d'émotion que moi j'ai eue en refermant ces pages, en me disant waouh, je crois qu'on a fait un petit voyage là, ensemble, et un voyage qui laissera une couleur, une teinte, une atmosphère.
Je trouve que c'est assez malin d'avoir adopté des points de vue différents à chaque chapitre, parce que pour le coup, on rentre dans la peau des personnages et des narrateurs, et on ressent justement cette émotion-là. Je trouve que la forme, pour le coup, est à l'aune du fond que tu veux faire passer.
Oui, parce que je ne sais plus qui avait dit un jour que la grande, grande force de la littérature en général, mais on peut inclure la bande dessinée dedans, la narration littéraire, c'est de nous faire rentrer dans la tête des protagonistes. Parce que, en particulier par le biais de la voix off, alors je précise que dans Le Dieu Fauve, j'use et abuse hein, de la voix off. J'ai un ami libraire qui me dit, bon, je l'ai lu malgré mon aversion pour la voix off, et heureusement, il a aimé l'album. Mais c'est vrai que c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'on est dans la tête des personnages, ou très près, parce que, par exemple, pour Sans voix, on est plus presque dans un documentaire animalier où une voix off vient commenter ce que fait l'animal, mais on ne pense pas comme l'animal. J'ai pas pris ce risque-là. Mais le fait est quand même qu'on est dans la tête, comme ça, des différents protagonistes. Et c'est une chance unique que nous permet la littérature. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va non pas excuser leur comportement, mais l'expliquer, ce qui pour moi est une grosse, grosse, grosse différence. On peut expliquer sans excuser, c'est-à-dire qu'il y a des personnages du Dieu Fauve dont je ne tolérerai pas le comportement dans la vie de tous les jours, mais dans le cas présent, je vais quand même les suivre en me disant quel est le point de vue qui va justifier qu'on ait tel et tel comportement ultra-violent. Et l'idée étant qu'on se retrouve à tellement connaître les protagonistes qu'à la fin, il est difficile en termes émotionnels de prendre parti. Et il est difficile de se dire, oui, en fait, machin a raison, truc a tort. C'est vraiment un de mes leitmotivs, hein, c'est presque une obsession maintenant chez moi, ça. Je tiens absolument dans mes bouquins à ce qu'on puisse justement comprendre le comportement de tous les personnages et non pas penser les choses de manière manichéenne, les gentils, les méchants, mon camp, le camp d'en face. Ce qui me paraît être un peu la gangrène actuelle de ce qu'on vit, en particulier sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont comment dire, un épiphénomène de ce qui se passe dans notre société, une polarisation de plus en plus grande entre des camps que je peux comprendre. On peut avoir des débats politiques, on peut ne pas être d'accord, bien entendu. Mais quand ça devient à ce point polémique sur polémique, où il y a simplement des invectives et des menaces de mort, il n'y a plus du tout cette possibilité de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre cet autre qui est notre antagoniste, notre adversaire, notre ennemi, tout ce qu'on peut maintenant inventer. Ici, on a quatre personnages dans Le Dieu Fauve, chacun a sa vision du monde. Et il se trouve qu'elles ne seront pas forcément compatibles et qu'à un moment donné, il y aura malheureusement certains des protagonistes qui survivront à d'autres protagonistes alors qu'on se sera attaché à peu près à tous, quoi.
Bon, il y a un univers qui est posé maintenant. Alors, il faut que je te pose cette question
Oui.
importante. Est-ce que tu as envie d'y revenir? Parce que nous, on a envie de parcourir de nouveau un petit peu ce monde-là.
À l'heure actuelle, on l'envisage pas. C'est un one shot qui se termine de belle manière en plus, je trouve. Donc, je n'imaginerais pas à l'instant T prolonger le récit. Ceci étant dit, c'est vrai que ça m'a un peu coûté de quitter ces personnages, de quitter l'univers graphique qu'a posé Roger. On va dire qu'a priori non, on verra par la suite. C'est comme tout, hein, c'est que ça n'aurait de sens que s'il y avait d'une part un très bon accueil de la part du public, et ça, on n'en sait rien pour l'instant. On a a priori un bon accueil des libraires, et c'est déjà super. Et je te remercie de ton intérêt. Maintenant, de là à savoir si ça justifierait commercialement, par exemple, l'envie de continuer, c'est autre chose. Et d'autre part, là tout de suite, je me méfierais de vouloir prolonger une histoire qui est bien en l'état. Mais ne dis jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Si on trouve une très bonne idée qui permettait de renouveler les choses ou de faire un préquel ou que sais-je, rien n'est gravé dans le marbre. On va dire en tout cas que c'est contrairement par exemple à une série que j'ai lancée en parallèle qui s'appelle La Cuisine des Ogres, où c'est vraiment prévu qu'on visite cet univers album par album. Dans le cas du Dieu Fauve, on est plus parti avec Roger dans l'idée de continuer à travailler ensemble sur un one-shot à venir qui serait dans un univers complètement différent. Mais une fois de plus, je m'interdis rien par rapport à l'enthousiasme. En fait, en tant qu'auteur, autrice, je pense, j'inclus aussi les autrices là-dedans, j'imagine qu'on est tous un peu pareil, on fonctionne au désir. Si on sent qu'il y a un désir qui est fort en face, ou que nous-mêmes on est pris d'un désir de raconter quelque chose qui s'impose à nous, parce qu'on a envie de, par exemple, de revoir un personnage, on suivra ce désir. Pour l'instant, on est déjà en train simplement d'accompagner les premiers pas du Dieu Fauve, et c'est déjà très émouvant parce que le simple fait d'avoir quelques retours, je sais pas encore quels seront, on va dire, les statistiques de réception, dans le sens, est-ce qu'une majorité de personnes aimeront ou pas? Ça, c'est ce qui fait ou pas un succès commercial. Mais il y a autre chose que ce curseur-là, il y a celui des réceptions singulières, c'est-à-dire quelques personnes qui te disent waouh, cet album-là, il m'a scotché. J'ai eu ça sur le Dieu Fauve. C'est-à-dire que j'ai quelques personnes, quelques libraires qui m'ont dit waouh, putain, super cet album. Ça suffit à mon bonheur actuellement. Je me dis, c'est cool, on ne s'est pas complètement planté, on a au moins un micro-public de gens qui ont compris ce qu'on voulait faire, ce qui est à chaque fois ce que je vise, un micro-public de gens qui m'ont compris. Après, la suite, qui est quand même importante pour une éventuelle séquelle ou préquelle, ça dépend vraiment de choses qui m'échappent et qui pour l'instant n'ont pas une grande importance, à savoir le succès commercial. Ça a une importance bien sûr, mais ce n'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on écrit au départ.
Vous avez tous compris, on a le pouvoir de donner envie à Fabien d'avoir envie. Voilà, je vous passe le
C'est
mot.
ça. Je suis prêt à chanter du Hallyday, c'est-à-dire envie
Exactement.
d'avoir envie.
Merci beaucoup, Fabien.
Merci à toi.
Alors, on va souhaiter bonne chance à cet album. Ça s'appelle Le Dieu Fauve. C'est en librairie chez Dargaud aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et puis, c'est terminé pour aujourd'hui dans ma bulle. Si vous voulez continuer un petit peu la journée, on a un peu plus de 360 interviews et émissions dans nos archives. Bonne journée à tous et à toutes.
À bientôt.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.